RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport sur RMC. On est ensemble pendant une heure jusqu'à 19h. Après, vous retrouverez toute l'équipe de l'After Tour autour de Pierre-Yves Leroux. Une heure à passer ensemble avec Stephen Brun. Salut Steve.
Bonsoir Flora, bonsoir tout le monde, t'es en forme?
Ouais, ça commence à piquer un peu, mais oui, on est en forme. On est comme les coureurs du Tour de France, tu vois, sur la fin.
Moins une courbature que quand même.
Oh, a priori, j'espère pour moi, sinon, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma semaine. Et on va revenir justement dans quelques instants avec Jérôme Coppel sur cette 18e étape du Tour de France remportée par Richard Carapaz. Toujours pas de victoire française sur ce Tour 2026, Steve, mais est-ce qu'on va y arriver? C'est la question qu'on se pose. Les championnats de France d'athlétisme, ça commence dès demain à Albi. Renaud Lavillenie sera avec nous dans quelques instants alors qu'il vise les minima pour les prochains championnats d'Europe. La plupart des clubs de top 14 ont déjà repris et préparent la nouvelle saison, notamment du côté des transferts. On fera un point complet sur l'intersaison des clubs français. Et puis on terminera comme tous les jours avec les toutes dernières infos foot, notamment concernant Zinedine Zidane. La 18e étape du Tour de France vient de se terminer sur RMC avec la victoire de Richard Carapaz. Le débrief complet avec toutes les réactions, c'est évidemment, vous en avez l'habitude à 19h dans l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe. En attendant, Jérôme Coppel est avec nous pour revenir sur cette étape plus rapidement. Salut Jérôme!
Salut Flora, salut Stephen, salut à tous.
Une 18e étape remportée en solitaire par Richard Carapaz qui a déposé notamment Valentin Paré-Pinte pour sa deuxième victoire sur un Tour de France.
RMC, la flamme rouge.
Le voilà, le dernier kilomètre pour Richard Carapaz. Il y a vraiment un talent fou chez ce garçon. La locomotora de Carchi qui va s'imposer une nouvelle fois. Richard Carapaz, brillant. Évidemment, on est déçu pour Valentin Paré-Pintre, déjà relégué à une minute derrière. Les poursuivants sont à 37 secondes. Un duo qui est battu par l'équatorien Richard Carapaz.
Et dans quelques instants, il va lever les bras. Il va s'imposer ici à Ancien Merlette.
Le Jaguar, autre surnom de Richard Carapaz, vainqueur ici. Il aura griffé plus fort tout le monde dans ce peloton. Il s'applaudit même et il serre le poing. Richard Carapaz, très heureux évidemment de sa victoire.
On adore les métaphores de Pierre-Yves Leroux. Il y a un drame en plateau. C'est la gourde qui est tombée. On applaudit évidemment Pierre-Yves Leroux avec ses élancées vocales. Jérôme, Richard Carapaz, trop fort encore une fois aujourd'hui. On l'a beaucoup vu à l'avant dans ce Tour de France. Et puis dans cette lutte à distance avec Valentin Paré-Pintre, c'est lui qui était le plus fort aujourd'hui.
Oui, c'est lui qui était le plus fort et de loin, pas que dans la dernière difficulté. On l'a vu toute la journée. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu avec Valentin Paré-Pinte parce qu'ils sont suivis toute la journée pour essayer de prendre les points en haut de tous les grimpeurs. Mais c'était lui le plus fort. C'est lui qui a ramené une première fois Valentin Paré-Pinte sur le groupe de tête avec Matteo Jorgensen notamment. C'est lui qui prenait les plus gros relais et c'est lui sur une double accélération dans la dernière montée qui a réussi à faire exploser Valentin Paré-Pinte et le reste du groupe pour aller gagner ici. Moi, j'adore ce coureur. C'est le panache à l'état pur. Il a déjà gagné un grand tour. Il a l'expérience d'une course de 3 semaines. Il a gagné un Giro. Il a été champion olympique. Tu l'as dit, Flora, sa deuxième victoire sur un Tour de France. Voilà. Et son équipe, lui, en fait, il est à l'image de son équipe. Il est un peu rock'n'roll. Ça part un peu dans tous les sens, son équipe. Des fois, on a l'impression qu'il se court un peu dessus. Mais pas du tout, en fait. Ils sont un peu rock'n'roll comme ça. Et ça finit par marcher. Et voilà. Une très belle victoire sans aucune contestation possible pour Richard Carapaz.
Et c'est sûr que nous, ça nous fait un petit peu mal au cœur. Parce que c'est vrai qu'on attendait ce duel avec Valentin Paré-Pintre. On va en parler de ce maillot à poids, évidemment, avec la lutte à distance avec Tadej Pogacar aussi. On attendait, nous, la première victoire française. On espérait que ce soit Valentin Paré-Pintre qui soit capable de l'emmener. Mais comme tu l'as dit, on a vu que sur la deuxième attaque de Richard Carapaz, ça a été impossible pour le Français de suivre, qui a même été lâché ensuite.
Oui. Bah alors, il était très bien, Valentin Paré-Pinte, mais la montée était presque pas assez difficile pour lui. Alors, vous allez me dire, il a pété. Comment tu peux me dire que c'est pas assez difficile? Mais on a entendu des interviews à la fin de coureurs, notamment Nicolas Prodhomme, le coéquipier de Paul Sexas, qui dit, elle est pas si dure que ça, cette montée, et les pourcentages comme ça, 5, 6, 7%, c'est pas ce qui convient le mieux à Paré-Pinte. Donc lui, il préfère quand c'est plus raide, quand il y a des ruptures de pente, pas quand c'est régulier comme ça. À l'inverse de Carapaz, passe. Là, c'est vraiment son profil. Maintenant, il a rien à se reprocher, Valentin. Jusqu'à la dernière difficulté, il a gagné tous les grimpeurs. Il a pris le maximum de points possible jusqu'à la dernière montée. C'est toujours difficile quand tu cours et après une victoire d'étape et après le maillot à poids. Souvent, quand tu cours après le maillot à poids, bah, ça, tu laisses de l'énergie et ça te coûte une victoire d'étape.
Ouais, justement, Jérôme, j'allais t'interroger là-dessus. Est-ce que, alors oui, le maillot à poids est un objectif prioritaire pour Paris-Pinte, mais justement, chercher les points comme ça, batailler au sommet pour prendre des points, est-ce que tu lâches pas du jus justement sur la fin et qu'il en manquait pas justement parce qu'il est parti chercher trop de points?
Ben si, c'est certain. On avait eu son papa il y a quelques jours au téléphone et on lui avait posé la question. Valentin, il préférerait avoir le maillot à poids à Paris ou gagner une étape? Il dit bon, il a déjà gagné une étape l'année dernière. Le maillot à poids, il l'a jamais ramené, mais c'est obligé que tu laisses de l'énergie. On l'a vu aujourd'hui en haut des cols. Il a toujours terminé devant Carapaz et nous, on se demandait la stratégie de Carapaz en fait. On se disait chaque fois, il se fait arranger par Valentin en haut des cols. Pourquoi il tente pas de plus loin, etc. Mais en fait, Carapaz, son objectif numéro un aujourd'hui, c'était de gagner l'étape. Mais... et c'était de limiter les dégâts envers par rapport à Valentin, mais sans faire trop d'efforts. Et lui, Valentin a pris la stratégie inverse, c'était de tout donner en haut des bosses pour assurer son maillot à poids, pour prendre le maximum de points. Mais c'est de loin pas suffisant. Ce soir, il est pas encore leader du classement général du maillot à poids. Hein. C'est toujours Tadej Pogacar.
Mais la stratégie inverse de Carapaz, elle est due au fait que lui, il s'est fait attraper deux fois déjà depuis le début du tour, au Markstein et sur les monts cantaliens où il s'est fait avaler par Pogacar. S'il avait pris une des deux étapes d'avant, peut-être que ça aurait pu être différent. Mais moi, je suis content. J'aime bien Carapaz comme Jérôme. C'est un mec qui est persévérant parce qu'il aurait pu lâcher l'affaire. Hein.
Il
s'est fait détruire par Pogacar alors qu'il pensait avoir l'étape. Il aurait pu se dire bon, vas-y, c'est mort pour moi. Il est encore retourné au mastic. Il est encore attaqué. Donc c'est mérité pour lui.
Ouais, on a peut-être le super combatif du tour aussi là, potentiellement, Jérôme.
Ouais, il y a des candidats au super combatif. Alors on a Baptiste Westhoffer, notre Français. On pourrait aussi
moustache aussi, non?
Ouais, Quinn Simons éventuellement. Mats Pedersen surtout, son coéquipier.
Qui a tenu longtemps d'ailleurs aujourd'hui.
Ben oui, aujourd'hui peu de personnes auraient misé sur le fait que Mats Pedersen passe les premières difficultés, puisse gagner le sprint intermédiaire après. Donc il y a des concurrents au prix du super combatif, ça c'est sûr. Et Carapaz, rentre dans le jeu bien sûr.
Alors un petit mot quand même pour cette lutte. Pour le maillot à poids dont on parle avec Steve, avec donc Valentin Paré-Peintre, Richard Carapaz et donc évidemment qu'on n'oublie pas Tadej Pogacar, parce que évidemment il y a deux étapes à venir très très difficiles dans les Alpes et c'est là aussi que ça va se jouer.
Ah bah c'est complètement là que ça va se jouer hein. Au classement général, Tadej Pogacar est leader avec un point d'avance sur Valentin Paré-Peintre et 7 seulement sur Richard Carapaz qui est troisième. Donc pour l'instant, le classement du maillot à poids se joue en 7 points. Mais demain, il y a 40 points en jeu et samedi, il y en a 70 en jeu. Donc autant vous dire qu'il y a rien qui est fait. Et le plus grand adversaire de Valentin Paré-Peintre, c'est peut-être Tadej Pogacar, parce que c'est sûr que Tadej Pogacar va en gagner une des deux. Peut-être. Alors s'il gagne les deux, c'est plié. Hein. Il n'y a même pas besoin de se battre pour les points. Mais est-ce qu'il va vouloir gagner les deux? C'est pas sûr. Son équipe est un peu décimée. Là, on vient de voir à l'instant Timo Hellens rentrer dans les délais pour 2 minutes. Il a perdu un coéquipier. Ça va peut-être changer la stratégie chez UAE. Mais il y a encore énormément de points à aller chercher. Demain, ça part tout de suite en bosse. Si Valentin a récupéré, faudra se lancer dans le boulot dès la première difficulté, dès les deux premières difficultés même. Mais on va avoir le même scénario qu'aujourd'hui. De toute façon, dans les échappées, on aura grosso modo les mêmes qu'hier et qu'aujourd'hui. Il te reste uniquement ceux à qui il reste un brin de vie pour pouvoir aller dans les échappées. Et on va retrouver Carapaz et Valentin Paré-Peintre collés dans le peloton ou dans les échappées pour ce maillot à poids. Mais c'est pas gagné ni dans un sens ni dans l'autre en fait. Ils sont encore trois à pouvoir ramener ce maillot à Paris.
Est-ce que tu es inquiet d'ailleurs pour les UAE? Tu en as parlé, il y a eu un abandon encore aujourd'hui. On a vu qu'Adam Yates est encore en train de récupérer aussi. Est-ce que tu es inquiet? Parce qu'on sait qu'il y a évidemment la stratégie d'aller gagner des étapes pour Tadej Pogacar, parce qu'on se dit que le général est quasiment fait. Mais il y a aussi évidemment Isaac Del Toro et ce maillot blanc. Donc il y a beaucoup de choses à défendre malgré tout.
Oui, il y a beaucoup de choses à défendre. Alors le maillot à poids qu'on vient de parler, il s'en occupe pas, hein, Tadej Pogacar. Oui. Le maillot à poids, s'il gagne une étape, ça viendra avec ou pas, mais il s'en fiche complètement. Alors inquiet, non, je suis jamais vraiment inquiet pour Tadej Pogacar et son équipe, mais quand même, il y a McNulty qui a abandonné aujourd'hui. Adam Yates s'est passé proche de l'abandon hier, ça avait l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui. Et là, on a Timo Hellens qui rentre dans les délais pour 2 minutes. C'est pas les meilleurs grimpeurs. Adam Yates, c'est quand même une pièce maîtresse. Contreras, mais autour de Del Toro et de Pogacar, il va leur rester uniquement Groschartner. Donc pour maîtriser une étape et un peloton comme ça, alors demain c'est une étape courte, ça va être bim bam boum, ils vont très vite se retrouver un petit groupe et là il y aura pas trop de problèmes pour contrôler. L'étape de samedi, ça va être un peu plus compliqué. Leur objectif, en fait, Tadej Pogacar et son équipe, ils ont un double objectif, c'est gagner le Tour et d'essayer de mettre Del Toro sur le podium. Par contre, s'ils sont décimés, si à un moment il y a le feu, alors le feu, faudrait un sacré incendie, hein, parce qu'il a quasiment 5 minutes d'avance sur le deuxième. Mais si à un moment il y a le feu, l'équipe va devoir demander à Del Toro de rouler et de se sacrifier pour Pogacar, et ça pourrait faire les affaires, notamment de Paul Sexas.
On a du mal à y croire quand même qu'il faut pour Pogacar.
Ouais, on a un peu.
Il essaie de nous vendre.
J'ai mal vendu mon truc, Steve, ça a pas marché. J'essaye tout. Par contre, alors Tadej Pogacar et Del Toro ont pas l'air malades du tout, bien sûr. Et
un petit virus peut-être qui traîne chez eux, non?
Ah mais il y a un virus qui traîne chez eux, ça c'est sûr, ça a été dit, ça c'est acté. Il y a même Timo Hellens qui a dit à la télévision belge qu'il y a la moitié de l'équipe qui est malade. Mais par contre, ça n'empêche pas les adversaires, dont Carapaz, de venir faire un câlin à Tadej Pogacar et à se taper dans la main. Donc ils n'ont pas l'air inquiets. Tadej Pogacar a l'air d'aller plutôt pas mal.
On est impatient de ces deux étapes à venir dans les Alpes et notamment celle de samedi, qui sera le climax de ce Tour de France. Merci beaucoup, Jérôme. On te retrouve évidemment dès 19h dans l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe. Merci beaucoup. Il est 18h11. Steve, dès demain démarrent les championnats de France d'athlétisme à Albi, avec un enjeu majeur. Évidemment, c'est obtenir les minima pour les prochains championnats d'Europe à Birmingham. Ce sera du 10 au 16 août prochain. Un homme, notamment, espère bien obtenir son ticket pour les Europes. C'est Renaud Lavillenie.
Il y a une passion pour sa discipline et une capacité à travailler qui est hors norme.
Il faut la passer cette barre, Renaud. Ça fait des années que tu bosses pour ça. Vas-y Renaud, élève-toi, passe-la cette barre. Il la passe. Renaud Lavillenie est champion olympique.
Sur un terrain d'athlète, c'est pas le même Renaud que ce qu'on a pu avoir à la maison.
Il se place donc pour sa troisième tentative à 6m06, Renaud Lavillenie. Il s'élance dans les airs, la tentative et ça passe. Ça passe pour Renaud Lavillenie, 6m06. Évidemment les points rageurs pour la troisième performance de sa carrière, 34 ans, exceptionnel.
Quelqu'un qui est capable de sauter à 100% d'intensité pendant plus de 3h30, c'est un gars qui sait pourquoi il s'entraîne.
La cause d'élan de Renaud Lavillenie, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6m16, pourquoi pas. Ah, record du monde. Record du monde. Renaud Lavillenie est le nouveau record man du monde du saut à la perche. 6m16. Sergei Bubka est debout. L'ovation hystérique. Les mains sur la tête. Il est croqui. Renaud Lavillenie.
Intégral Sport.
Les frissons en entendant les grands moments de la carrière de Renaud Lavillenie et qu'il est avec nous aujourd'hui dans l'Intégral Sport sur RMC. Salut Renaud.
Salut.
Bonjour Renaud.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le concours à la perche dans ces championnats de France, ça démarre samedi. Comment tu te sens deux jours avant? Est-ce que tous les feux sont au vert pour toi?
Alors déjà, on est dimanche. Mais ça nous fait gagner une journée de plus. C'est pas mal, c'est pas grave. Samedi, c'est les filles. Ah. Mais ouais, les feux sont plutôt au vert cette semaine. Les entraînements se sont bien passés. Donc je suis content de pouvoir arriver au championnat de France. Je dirais avec toutes les cartouches que je pouvais imaginer. Après, on sait que là, ça va être un concours de haute volée et il va falloir justement être bien équipé, bien armé si on veut avoir la chance de d'être dans le rythme, quoi.
Parle-nous de ton corps, Renaud. Comment tu te sens? T'as été gêné depuis pas mal de temps,
ouais,
de blessures,
tendons,
tendinite et compagnie. T'en es où là?
Là j'ai réussi à bien gérer. J'ai été pas mal embêté, notamment ça a fini la saison dernière au championnat du monde où le tendon ischio qui a un petit peu lâché, c'est ce qui fait que ça m'a écarté pas mal de mois cet hiver, et là depuis le mois d'avril j'arrive à gérer. Donc j'ai eu forcément un peu de retard par rapport aux autres, mais là je commence à sentir que j'ai suffisamment d'entraînement pour retrouver des sensations correctes. Et là, il y a de ça quelques grosses dizaines de minutes, j'ai fini ma dernière séance de perche. Je retrouve ce que je suis capable de faire de manière plutôt bien.
T'as fait péter les 5,82 sur la dernière séance ou pas?
Non. Mais bon, de toute façon, j'ai toujours de la marge entre l'entraînement et la compète. Mais bon, j'ai fait mes meilleurs sauts d'entraînement de la saison aujourd'hui, donc ça va dans le bon sens, quoi.
C'est bon, ça. Effectivement, ça fait c'est bon signe avant dimanche. On va parler de l'objectif des minima, évidemment, pour les championnats d'Europe, mais il y a aussi l'objectif national. D'abord pour toi, qui est de conserver ce titre de champion de France en plein air. Et tu le disais, il y a une très rude concurrence en France aussi aujourd'hui.
Ouais, bien sûr, on a un niveau qui a jamais été atteint. Faut se dire que actuellement je suis avec 5m70 au bilan et je me trouve à avoir la 10e performance française, ce qui est du jamais vu, hein, et en sachant que c'est une performance qui me permet de pouvoir être sélectionné pour les championnats d'Europe. Donc ça veut dire qu'on est 10 Français actuellement à pouvoir prétendre à être sélectionné aux championnats d'Europe. Et donc on sait qu'il va pas falloir s'égarer. Il y en a deux cette saison qui ont sauté plus de 5m90, Baptiste et Thibaut. Donc je me retrouve l'année dernière, j'étais dans une très bonne dynamique. J'ai réussi à reconquérir le titre après pas mal d'années. Donc c'est vraiment cool. Là, cette année, je vais pas me voiler la face. Être champion de France, ça va être très compliqué. Ou alors, il faut que je sorte vraiment le grand jeu. Donc, tout est possible. Mais je dirais l'objectif premier est de pouvoir être dans le match pour aller jouer le podium. Parce que je sais que si je suis en mesure de matcher pour le podium, la performance sera forcément au rendez-vous, parce que là, ça va être dur d'imaginer de faire un podium avec une performance moyenne, quoi.
On en vient justement à cette question des minima, Renaud, pour les championnats d'Europe. J'en profite pour rappeler que le système a changé. Cette année, il y a des minima A et des minima B. Autrement dit, il y a deux portes d'entrée différentes pour les athlètes pour se qualifier. Si on réussit les minima A, on est directement qualifié. Et sinon, il faut réaliser deux fois les minima B. Ce que tu as, toi, réalisé avec ta performance en date à Monaco, meeting de la Diamond League. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu es déjà qualifié ou pas? Parce que ça a l'air un petit peu compliqué quand même.
Non, en fait, la réalité du système, c'est que les minima nous permettent de... Donc, les minima A qui sont à 5m82, il faut les réaliser une fois pour être sélectionnable. Et les minima B qui sont à 5,70, il faut les faire deux fois. À partir de ce moment-là, on est considéré comme sélectionnable. Et le jour des championnats de France, les deux premiers, sous réserve d'avoir fait les minima A ou deux fois les minima B, les deux premiers des championnats de France sont prioritaires, automatiquement sélectionnés. Et ensuite, le troisième, c'est un peu le flou artistique. On ne sait pas trop. On n'a pas trop de... De directive. Donc, on imagine que le troisième des France va forcément prendre un avantage. Mais la condition, quoi qu'il arrive, est d'avoir à minima fait au moins une fois les minima B, une fois les minima A ou deux fois les minima B. Donc, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, sur les France, parce qu'il y en a, j'ai un collègue qui est blessé, qui avait fait les minima A, qui va pas être là, mais je crois qu'on est 7 à être potentiellement réellement qualifiables. Et après, ça va être la bagarre des championnats de France pour sortir entre guillemets le trio gagnant qui pourra prétendre à représenter la France dans quelques semaines.
C'est pour ça que tu nous parles de podium, alors Renaud, 1, 2 ou 3.
Exactement, ouais, en sachant que les deux premiers sont considérés comme prioritaires, donc les deux premiers des France avec les minima, ils partent. Et voilà, on sait que quand il y a un choix, potentiellement on va se diriger sur le podium. L'objectif, il est vraiment ça. Et au-delà de ça, je dirais quand on arrive sur un championnat, l'objectif en premier lieu, il est de matcher pour la place. Donc le podium fait vraiment partie de l'objectif du week-end. Et puis après, on voit la suite, c'est du bonus, quoi.
On est avec Renaud Lavillenie dans l'Intégral Sport sur RMC. Renaud, tu parlais de ces 5m70 qui représentent les minima B. Tu l'as dit, c'est ta meilleure performance de la saison que tu as déjà réalisée deux fois. Tu étais même pas loin des 5m80 à Athènes. C'est ce que tu vas viser aussi dans ces championnats de France?
Pardon, j'ai eu une coupure, je vous ai pas entendu.
Ah, je disais qu'on parlait de ces minima, les minima B qui sont à 5m70, qui est la meilleure performance de ta saison, justement, que tu as déjà fait deux fois. Tu étais même pas loin des 5m80. Est-ce que c'est ce que tu vas viser aussi dans ces championnats de France?
Ouais, bien sûr, parce que clairement, la performance que j'ai actuellement est pas vraiment révélatrice de mon niveau. Autant au début de saison, ça me correspondait bien. Autant là, sur le mois de juillet, j'ai raté deux fois, une fois à Athènes, 5m80 de vraiment pas grand chose. Et ensuite à Monaco, 85 de pareil, de vraiment peu. Donc, avec mon coach, on est conscient que mon niveau est à 5m80. Mais voilà, encore faut-il le faire. Et, idéalement, le faire le jour J, au championnat de France, ça serait vraiment bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, les dernières séances de la semaine se sont vraiment bien passées. Je suis meilleur qu'il y a quelques semaines, donc on croit doigt pour que les conditions climatiques et notamment du vent ne soient pas trop défavorables dimanche après-midi pour qu'on puisse tous pleinement s'exprimer à 100% et puis de pouvoir imaginer et viser une bonne performance à ce moment-là, quoi.
Ouais. Dis-moi Arnaud, je suis désolé de te le rappeler, mais tu vas avoir 40 ans. J'ai cru comprendre, j'ai vu une interview, il y avait une question qui t'était posée sur ça serait top de finir à LA en 2028, et toi t'as dit j'arrêterai jamais. Ça veut dire quoi, j'arrêterai jamais?
Ça veut dire que j'ai la chance de faire du saut à la perche par passion et que je me vois pas arrêter le saut à la perche. Après, je sais que il y a une nuance entre entre pratiquer de manière professionnel, impliqué à haut niveau, et puis le faire après, ensuite, de manière pure loisir. Dans ma vision que j'ai, c'est évidemment Los Angeles 2028, c'est l'objectif que je me donne. Et puis ensuite, je raccrocherai pas les perches, mais c'est juste que je le ferai de manière un petit peu moins assidue, mais j'arriverai toujours à sauter un petit peu de temps en temps, peut-être même plus que de temps en temps, et que ce soit dans le jardin, au stade, mais voilà, j'ai ça dans le sang et toutes les personnes qui sont passionnées par quelque chose savent que c'est compliqué d'arrêter tant et si bien que on ait les capacités de pouvoir continuer, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est que je me donne les moyens de pouvoir continuer le plus longtemps possible et pour l'instant ça marche toujours bien, donc j'ai pas de raison de m'arrêter en si bon chemin, quoi.
Et des envies de d'accompagner des jeunes perchistes, de coacher, ça peut te parler, ça aussi?
Ça peut parler, mais pour l'instant je suis pas encore prêt à ça. Donc après je sais que j'ai cette fibre de la transmission, j'aime bien les athlètes avec qui je m'entraîne le savent, je suis pas avare en conseil et c'est quelque chose qui est assez cool, mais voilà, pour l'instant je me vraiment concentre sur cette partie encore athlète, et puis le jour où je sentirai qu'il faudra changer, switcher, on verra si l'opportunité se présente de pouvoir passer de l'autre côté ou de passer complètement ailleurs. Mais j'ai déjà des choses qui sont entreprises, avec notamment le All-Star Perche que j'organise, le club que j'ai monté depuis quelques années, où justement j'accompagne, je suis un peu consultant, je suis pas entraîneur dans le club, mais voilà, tous les jeunes et les moins jeunes qui sont dans le club bénéficient un petit peu de mes conseils, de mon expertise, et je le fais avec plaisir, mais pour l'instant je suis concentré sur essayer de rendre la tâche encore toujours un peu de compliquée aux petits jeunes et aux moins jeunes qui sont en compétition. Et voilà, on prend toujours du plaisir à sauter ensemble. Et j'essaye. Je sais que le jour arrivera où je pourrai plus matcher et je pourrai plus revenir en arrière. Donc c'est pour ça que j'essaye de continuer d'être dans le coucou.
Renaud Lavieni est l'invité de l'Intégrale Sport sur RMC aujourd'hui. Steve rappelait que tu vas avoir 40 ans le 18 septembre prochain, Renaud. Et tu as un objectif ce jour-là, c'est d'aller chercher le record du monde Masters. Il faut que tu nous racontes ça parce que c'est fou. Tu as déjà le record du monde des plus de 35 ans et tu vas aller chercher encore un nouveau record du monde.
Je crois qu'il va faire 45, 50, 55, 60.
Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est des records.
C'est des objectifs, mais c'est important.
Ouais, bien sûr. Alors, c'est des records qui sont officieux. Hein. Autant le vrai record du monde, quand je l'ai fait, j'ai reçu une plaque, etc. C'était dans les tablettes, entre guillemets. Ouais. Là, c'est des choses qui sont un peu officieuses. Passé 35 ans, il y a des catégories master qui sont M35, 40, 45. Donc, j'ai la fierté d'avoir réussi à avoir celui des plus de 35 ans, malgré les petites galères que j'ai pu avoir les dernières années. Et je me dis que la symbolique est belle de pouvoir à la fois déjà sauter le jour de mes 40 ans.
Mais oui.
Parce que c'est pas donné à tout le monde pour ceux qui ont fait du très haut niveau. Et puis, bah, si possible, voilà, essayer de tenter de tenter cette performance. Actuellement, la performance est à 5m70. Donc bon, clairement, je suis dans le coup, hein, d'ici deux mois. Et puis après, bon, je vais pas m'arrêter là. L'objectif, il est quand même de continuer les années prochaines et je pense que 70, j'ai encore le niveau de pouvoir les faire. Mais voilà, la symbolique, je trouve que la symbolique est belle et comme je disais tout à l'heure, mais le fait de pouvoir me projeter en me disant que le jour de mes 40 ans, qui j'ose imaginer est un jour un peu spécial pour ceux qui l'ont eu, de pouvoir faire du saut à la perche ce moment-là, je trouve que c'est plutôt cool, quoi.
Ça, c'est vrai que la symbolique est belle, ouais. Stéphane.
Et Renaud, un dernier petit mot avant de te laisser tranquille, sur ton ami suédois, là, qui est correct à la perche.
Armand Duplantis, qui sera au championnat d'Europe, ouais, d'ailleurs.
Hein. À ton avis, il va s'arrêter où? Il va passer les 5,40, les 6,40, pardon?
Bah, il l'a dit ouvertement que c'était dans ses objectifs, dans ses ambitions. Une chose qui est sûre, c'est que il repousse les limites au plus loin que l'on aurait pu imaginer il y a encore quelques années. On sent par contre que la limite se rapproche et qu'il a de moins en moins de marge par rapport à quand il sautait entre 6,20 et 6,25, on sentait qu'il en avait encore sous le coude.
Bah,
là, ça commence à être de plus en plus dur, mais voilà, il est quand même en forme. 6,40, ça fait quand même, il a encore 9 cm à faire par rapport à ce qu'il a fait tout de suite. C'est quand même beaucoup. Mais on peut lui faire confiance sur sa capacité à se transcender et à aller au-delà de ça. En sachant que il a que 26 ans, donc il a encore quelques belles années devant lui. Mais je dirais au-delà de la performance pure, c'est surtout ce qui est fascinant, c'est sa capacité à être toujours compétitif et toujours mort de faim sur les championnats. Ouais, c'est cool parce que il aurait pu bâcher et puis gérer le business entre guillemets. Non, il ne cesse de repousser les limites. Donc il met la barre toujours plus haut et ceux qui vont arriver derrière, va falloir vraiment s'accrocher, quoi.
Ça, c'est sûr. Passer après lui, ça va être compliqué. On espère d'ailleurs vous retrouver tous les deux dans ces championnats d'Europe à Birmingham. On te le souhaite en tout cas, Renaud. Et bonne chance pour ces championnats de France ce week-end. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bonne chance à toi. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Renaud Lavillenie d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport. Il est 18h27 sur AMC. On revient dans quelques instants avec Stephen Brun. On va parler rugby. On fera le point sur les clubs qui ont déjà repris et comment ils préparent la saison prochaine. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 18h31 sur RMC. Vous êtes bien dans l'Intégral Sport avec Stephen Brun. On vous accompagne jusqu'à 19h. Vous retrouverez ensuite toute l'équipe de l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux pour débriefer de la 18e étape du Tour de France remportée par Richard Carapaz. Dans cette période estivale un petit peu creuse, on va se projeter sur la saison à venir et notamment celle de Top 14 parce que les clubs sont déjà en train de s'agiter et de préparer justement la rentrée. On va faire le point avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Flora. Salut Pierre.
On va démarrer, et tiens, honneur au champion en titre, de façon très originale, effectivement. Grand favori, évidemment, à sa propre succession, le Stade toulousain, qui s'est renforcé en plus à l'intersaison.
Oui, pas de nombreuses arrivées, mais une principale dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, c'est Tommaso Menoncello, le centre italien qui débarque de Trévise, meilleur joueur du tournoi Destination en 2024. Il était dans l'équipe type du tournoi Destination sur les trois dernières saisons. C'est globalement le meilleur centre d'Europe. Est-ce que Toulouse avait besoin de ça? Je ne sais pas, mais en tout cas... Il arrive et il sera associé à Choco Barrès, à Calvin Gourgou, à Pierre-Louis Barassi au centre du terrain. Il y a quelques départs pour compenser évidemment cette arrivée, notamment des Français Dimitri Delib qui part à Montpellier et Paul Coste qui part au Racing pour faire de la place à Tommaso Menoncello qui débarque.
Ouais, le Stade Toulousain qui a comme objectif de faire le 5 à la suite qui n'a jamais été fait.
Parce le 5-pit.
Le 5-pit. Là, ils ont galé leurs prédécesseurs de 94, 95, 96, 97. Je pense que c'est un objectif. Et puis, il y a la Champions Cup aussi. Ça fait deux saisons où ils se font sortir par l'UBB en demi et en quart cette saison. Donc, il y a des vrais objectifs. Mais le problème, c'est que Menoncello, on a parlé, c'est un international de plus.
Exactement.
Et que cette saison qui arrive, les internationaux vont être monopolisés par le la championnat des nations, par la finale du championnat des nations à Twickenham. Il y a aussi l'année de Coupe du Monde.
Il y a quatre dates de match en novembre, plus les cinq dates de match du tournoi des nations. Donc ça fait déjà 9 semaines sans tous les internationaux. Et comme l'a dit Stephen, Menoncello sera mobilisé à chaque fois par l'Italie. Phase finale en juin, ça va être compliqué.
Ils sont toujours là, mais après ça va donner encore une fois, déjà que cette année, le top 14, c'était pas une année de Coupe du Monde. Et ben, tu t'aperçois que l'exemple d'Antoine Dupont qui joue très peu de matchs et que pas mal d'internationaux jouent très peu de matchs, ça risque d'être encore pire la saison prochaine. Donc c'est pour ça que recruter, Menoncello est un joueur formidable, mais recruter un international de plus, il sera pas là pendant 9 semaines, donc ça va faire de la place à d'autres joueurs, aux jeunes et à la formation toulousaine qui est exceptionnelle. Mais encore une fois, le top 14, il y aura des débats sur des affiches qui sont tronquées, ou c'est des affiches en prime time le dimanche soir où il n'y a pas les grandes stars parce qu'elles sont au repos ou parce qu'elles sont avec le 15 de France. C'est encore une fois le même problème saison après saison pour le rugby.
Malgré tout, est-ce que le Stade toulousain reste le grand favori à sa propre succession pour faire justement ce 5 à la suite dont parle Stephen?
On cherche toutes les rentrées de septembre, on se dit peut-être que cette année quand même ça va être compliqué, et en fait on arrive en juin et c'est eux qui le prennent à chaque fois. Il y a des raisons, on pourrait dire qu'il y a des raisons de douter, la lassitude, ils ont égalé un record, l'équipe change peu, c'est une année de Coupe du Monde, comme dit Stephen, les joueurs auront peut-être la tête ailleurs, mais ils font toujours le boulot au final. Cette saison ils ont égalé, Stephen l'a dit, un record entre 94 et 97 de 4 victoires, et juste après le coup de sifflet final, la première chose qu'Hugo Mola a dit aux joueurs, c'est maintenant faut aller chercher le cinquième. Donc ils sont tellement dans un état d'esprit différent de la normale que évidemment quand on fait la liste des favoris, ils sont numéro un avant de démarrer cette saison.
Et puis on peut mettre des bémols, mais chaque fois ils font le travail comme il faut, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'être un ou deux très tôt, donc à la fin et ben ils perdent des matchs et ça nous met un petit doute. Ils sont moins bien machin. Exactement. La phase finale arrive, ils détruisent tout le monde, donc c'est compliqué. Après c'est aux adversaires aussi de leur rendre la tâche un peu plus compliqué, mais Toulouse maîtrise ce championnat à merveille. Ils se font pas peur, comme a pu faire l'UBB cette saison.
Toulouse qui est loin d'avoir repris, pour le coup, là, ce sera une reprise en décalé par rapport aux autres.
Ils ont fini très tard. Ils ont fini le 28 juin.
Et s'ils reprennent, il y a 4 joueurs entre
eux. Oui, c'est ça. Ça sert à rien de reprendre maintenant.
Parce qu'il y a plein de clubs qui ont repris, mais sans les internationaux qui sont partis au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie cet été. Ils vont reprendre entre le 3 et le 10 août, Toulouse, comme Montpellier. Montpellier a à peu près le même planning parce qu'ils ont été tous les deux en finale, donc c'est normal de laisser souffler. Hugo Mola avait été très vindicatif envers les instances avant la finale en disant nos joueurs ont besoin de se reposer, écoutez-les, sinon ça va vous péter à la tête, et il avait dit, donc voilà, c'est normal qu'il leur laisse du repos, et ils reprendront entre le 3 et le 10 août pour une reprise du championnat le 5 septembre, donc ça laisse un vrai mois de prépa avant de reprendre.
On a Vincent, supporter toulousain, qui est avec nous au 32-16. Salut Vincent.
Oui, bonjour.
Salut Vincent.
Bonjour Vincent.
Tu nous as entendu trier les éloges de ton club, le Stade toulousain. Est-ce que tu vises ce 5 à la suite? Est-ce que tu as la Coupe d'Europe aussi dans un coin de la tête? Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, en fait, ce que je disais, c'est que je pense que cette année, ils vont quand même viser la Coupe d'Europe, parce qu'ils ont été un petit peu frustrés. Bon, après, ils sont tombés contre Glasgow, après ils ont perdu des points, ils ont perdu contre l'UBB. Donc ils vont, je pense qu'ils vont faire le forcing sur la Coupe d'Europe. Alors maintenant, le top 14, ça reste une compétition où il va falloir gérer les matchs, mais ils le feront. Ils verront sûrement comment ça va se passer courant février. Mais en tout cas, bon, ils vont tout faire en tout cas pour être premier ou deuxième. Et là, bon, s'ils sont premier ou deuxième de la saison régulière, comme je disais à l'antenne, s'ils sont premiers, ils méritent de gagner le championnat, quoi, comme cette année, quoi. Moi, je suis toujours pour celui qui finit premier, même si c'est pas le Stade Toulousain.
C'est vrai?
Oui, tout à fait.
Mais dans ces cas-là, faudrait pas faire de play-off, alors,
premier. Je suis
entièrement d'accord avec vous. Comme au football.
Et juste ton avis de supporter pour la saison prochaine, est-ce que tu signes pour un cinquième titre de suite ou pour un titre en Coupe d'Europe? Qu'est-ce que tu préfères?
Alors, moi personnellement, c'est un titre en Coupe d'Europe. Vous le disiez l'autre jour, je sais pas si c'est Stéphane qui le disait, mais en fait c'est pas facile maintenant de viser quand même les deux tableaux, quoi. Ouais. En ce moment, de jouer sur les deux tableaux, c'est pas évident. Mais bon, ils ont quand même les moyens pour, hein. Bon, ils ont Jack Willis qui est quand même un joueur extraordinaire.
Le troisième ligne anglais.
Troisième en ligne, oui, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde.
Qui va jouer son frère, d'ailleurs, qui arrive à l'UBB.
Et oui. mais c'est très très bien. Mais l'équipe d'Angleterre se passe de Jack Willis, c'est bien dommage parce que.
Mais Vincent, t'as raison d'insister sur, et je pense que Hugo Mola va insister là-dessus, sur le début de la Champions Cup, parce qu'ils se mettent une balle dans le pied en perdant deux fois en face
c'est
de poule, et après ça leur coûte un calendrier pourri où t'es obligé de jouer l'UBB en quart de finale à l'extérieur. Et je crois que Hugo Mola va insister là-dessus, être très sérieux dès le départ sur la phase de poule pour avoir ensuite des équipes avec où ils ont un peu de marge avant d'affronter les cadors de cette Coupe d'Europe en demi et en finale.
Ça paraît logique, ouais, effectivement.
Oui, c'est comme ça. Effectivement, parce que les phases de poules sont très importantes parce qu'elles peuvent, ils peuvent recevoir jusqu'en demi-finale, ce qui fait que ça laisse un boulevard
ça change beaucoup de choses. Ouais, non, t'as raison de le préciser. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Bonne saison à toi avec le Stade Toulousain. On parlait justement de l'UBB, de jouer sur les deux tableaux. Bah, l'UBB va peut-être jouer l'inverse pour le coup. Peut-être qu'ils vont jouer le championnat cette fois-ci.
Bah, Bordeaux veut son top 14. Il reste sur deux victoires en Coupe d'Europe sur les deux dernières saisons. Mais ils ne se sont pas qualifiés dans les six. Au-delà de ne pas avoir remporté le top 14, ils n'ont même pas joué les phases finales cette saison. Leur saison s'est terminée très tôt avec une victoire face à Clermont à Chaban-Delmas. Et juste après cette victoire, Yannick Bru avait évoqué le fait qu'il allait falloir réfléchir à une stratégie pour la saison d'après. Autant dire, va falloir faire des choix parce qu'ils ne peuvent pas jouer les deux, l'Union Bordeaux-Bègles. On l'a vu sur les deux dernières saisons. C'est pas officiel qu'ils vont délaisser la Coupe d'Europe, mais peut-être plus se concentrer sur le championnat, ne pas à tout prix essayer de faire ces 20 points en phase de poule, ces 4 victoires bonifiées qui leur assurent cette demi-finale à domicile, et dire un peu comme l'a fait Toulouse, faire tourner un peu plus et puis voir où cette compétition les amènera.
Et puis t'as fait le back-to-back, Pierre. Ouais. C'est déjà magnifique. À un moment donné, cette génération-là, elle pourra dire on est double champion d'Europe. Mais le problème, c'est que cette génération-là, elle aspire à autre chose et à gagner le bouclier de Brennus. Parce que les Mathieu Jalibert et compagnie, s'ils ont que deux Champions Cup, ça va pas leur suffire avec cette équipe-là qui a tellement de talent. Donc il va y avoir, je pense, tu l'as dit, des choses à faire tourner sur les phases de poule pour économiser les garçons et surtout pas se louper sur début top 14. Parce que l'année dernière, ils ont beaucoup de blessés, ils démarrent mal, ils perdent des matchs beaucoup à domicile, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et après, une fois que tu es champion d'Europe, tu sais très bien qu'il y a la décompression, qu'il y a la fête, qu'il y a les célébrations, et qu'après tu te remets dans une mission où il fallait gagner les 2-3 derniers matchs qui restaient pour être absolument dans les 6. Les mecs, tu les as perdus déjà, c'est trop tard. Donc bien débuter le top 14 pour sécuriser le plus de points et prendre des bonus à gogo pour être 1 et 2 avec Toulouse, voire 3, mais avoir une marge derrière pour ensuite être plus tranquille sur la fin de saison.
Et Bordeaux, qui a un calendrier plutôt favorable en Coupe d'Europe, ça signifie qu'ils n'iront pas en Afrique du Sud cette saison, alors que c'était le cas l'année dernière notamment.
Tout le monde prie.
Ouais, c'est ça.
Ils vont recevoir les Stormers et recevoir le Munster, et ils se déplacent deux fois en Angleterre, à Gloucester et à Bristol, qui sont pas les plus grosses armadas du championnat anglais. Donc il y a moyen de faire un 4 sur 4 quand même dans cette.
Il y a une problématique pour l'UBB, c'est qu'ils ont perdu Ben Tamifuna, le pilier droit qui s'est fait opérer, et je crois qu'ils ont un Sudaf qui reste avec l'Afrique du Sud parce qu'il y a 4 matchs contre la Nouvelle-Zélande, et ensuite ils continuent parce qu'il y a le championnat des nations. En termes de pilier droit, ils vont être au complet fin décembre, début janvier. Donc ça va être compliqué pour eux sur ce poste-là.
Et ils ont recruté comme Steve a dit tout à l'heure, Tom Willis, donc le frère de Jack Willis, qui débarque des Saracens, troisième ligne plus puissant que son frère, plus un profil de porteur de balle qui était déjà passé à Bordeaux il y a quelques années après que son club des Wasps ait déposé le bilan. Il avait fait quelques mois à Bordeaux. Et là, il revient, donc, comme l'a dit notre auditeur, il fait une croix sur le 15 de la Rose, sur l'équipe d'Angleterre, parce qu'on ne peut pas être international anglais et jouer en France. Et donc, Tom Willis et Jack Willis, qui seraient sans doute tous les deux titulaires en Angleterre,
ont fait
le choix du top 14.
C'est dire, gros sacrifice malgré tout. En tout cas, ça fait beaucoup parler cette reprise de la saison de top 14. Je sens que les supporters sont impatients de voir le rugby revenir.
Il va falloir attendre encore un peu.
Il va encore attendre, mais il y en a beaucoup qui nous appellent, et notamment Hervé, supporter de l'UBB. Salut Hervé.
Ouais, bonjour à tous.
Salut
Stephen, je me trompe pas cette fois.
Ah, bravo Hervé, t'es bon.
Ouais, j'ai travaillé pendant l'été.
Merci.
Et écoute, il faudra faire le Stephen Show tous les après-midi parce que t'es bien meilleur que Moscato et toute l'équipe dans tes analyses.
C'est faux, je m'en arrange.
Réellement, tout est bon. Alors UBB, le recrutement intelligent parce qu'ils ont recruté deux ou trois joueurs, il n'y a pas que Willis, qui ne sont pas internationaux.
Ah oui, c'est
donc,
résultat,
ils vont être dispo. Il y a un Sudaf qui vient des Stormers au centre aussi qui va être intéressant. Alors, en interne, on voulait vraiment mettre le focus, comme vous l'avez dit, sur le top 14. Le problème, c'est qu'on a un super tirage de Coupe d'Europe.
Ouais. Donc c'est tentant.
Et que on va pas pouvoir se permettre de, voilà. Et puis les supporters, comme vous l'avez dit, dont je fais partie, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit bon à domicile toute l'année, parce que l'année dernière, on n'est pas dans les 6 parce qu'on perd 4 fois à domicile. Donc c'est surtout ça. Et puis après, comme Toulouse, on a beaucoup de joueurs, dont les plus importants, les Biel Barré, Mathieu Jalibert et Maxime Lucu, qui vont jouer une grosse partie en équipe de France. Donc espérons que, on croise les doigts, qu'on n'a pas, avec tous ces matchs, pas trop de blessures, pour pouvoir avoir quelques points d'avance qu'on n'a pas eu cette année pour à la fin de l'année, être dans le sprint final. Mais c'est une année de Coupe du Monde, donc c'est un peu compliqué, parce qu'à la fin de la saison, il faudra quand même que les joueurs soient frais, et que malgré tout, dans leur tête, ils ont ça dans leur esprit. Et bien que bien espérons qu'on n'aura pas trop de matchs et qu'on n'aura pas trop de blessés, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, parce que la saison risque d'être longue, surtout avec l'été qu'on vient de passer.
Et puis vous avez votre Jefferson Poirot qui a fait un comeback Tony Truant avec le 15 de France aussi.
Ouais, ça c'est vrai aussi, c'est important de le rappeler, t'as raison Steve. Merci beaucoup Hervé, bonne saison à toi avec l'UBB. Il y a encore pas mal de choses à évoquer avec toi Pierre, et notamment cette lutte pour le top 6 qui va être plus homogène a priori.
C'est de chaque année c'est plus homogène. Christophe Ferreus nous le disait en fin de saison, il dit vous vous êtes étonné à chaque fois que ça se joue à un point, mais tous les ans c'est pareil.
Au bout d'un moment il va y avoir 14 équipes par 6 places.
Ouais, c'est ça.
C'est que tous les ans on se dit ah attention, ce bonus là pris à cet endroit là il est important, et c'est vrai parce qu'à la fin ça se joue à un point ou deux. On le rappelle, cette saison, il y avait 5 équipes différentes dans le top 6 par rapport à l'année d'avant. Il n'y avait que Toulouse qui avait réussi à se qualifier. Et c'est vrai que quand on voit les candidats sur la ligne de départ, on a du mal à voir qui ne joue pas le top 6. Perpignan s'est renforcé grandement et va sans doute jouer autre chose que le maintien. Vannes arrive avec des ambitions. Lyon, Bayonne doivent rebondir. Et puis Clermont. Tous les autres, Clermont a fini au port du top 6. Bordeaux aussi. La Rochelle a été dedans, mais avec une saison très compliquée. Il y a sur les lignes de départ peut-être 10 ou 11 équipes qui sont au même niveau pour jouer le top 6. Donc ça va être encore un championnat incroyable.
On va attendre aussi la confirmation de la magnifique saison de la section paloise.
De Montpellier aussi.
Il faut confirmer. Ouais. Montpellier qui est finaliste face à Toulouse, il va falloir confirmer aussi. Les deux clubs franciliens qui ont fait des belles saisons, le Stade Français, le Racing, les deux ont été demi-finalistes. Donc ça va être, il y a du matos partout. Encore une fois, ça va être un championnat fou, et ça va jouer sur des blessures. On fait tourner, on fait pas tourner. Des choix de coach, des choix tactiques.
Voilà. Ouais, les doublons aussi évidemment qui vont entrer en jeu là-dedans.
Et la Coupe d'Europe, parce qu'on le rappelle que les huit meilleures équipes du championnat se qualifient en Coupe d'Europe, c'est énorme, 8. Et l'année dernière, les équipes qui avaient brillé, le Stade Français, le Racing, Montpellier, sont des équipes qui ne jouaient pas cette Champions Cup, qui prend énormément d'énergie, à l'inverse de Bordeaux, Clermont, qui l'avait joué. Donc là aussi, ça va peut-être rééquilibrer un petit peu la chose.
Un dernier mot sur le maintien, Pierre, quand même, avec cette équipe de Vannes dont il va falloir se méfier aussi cette année.
Bah, ils reviennent avec d'autres intentions par rapport à leur passage il y a 2 ans. Ils ont marché sur la Pro D2 l'an dernier, 116 points au classement, finale gagnée contre Provence Rugby. Jean-Noël Spitzer, le manager, juste après la finale, a dit il va falloir que les dirigeants assume maintenant, en disant on a besoin de matos pour se maintenir en top 14. Il y a des joueurs habitués du top 14 qui sont arrivés, notamment des premières lignes. Georgi Beria qui arrive de Perpignan, Boniface qui arrive de Bordeaux. Il y a un deuxième ligne argentin à 100 sélections qui arrive aussi, un international fidjien. Enfin, ils sont vraiment renforcés et ils ont déjà toute leur base qui leur avait permis de bien résister il y a 2 ans en top 14. Ça fait 4 ans que le promu de Pro D2 redescend tout de suite et on se dit que peut-être que là, Vannes a vraiment un coup à jouer pour aller embêter Perpignan, pour aller embêter Lyon, Bayonne, Castres, et peut-être même d'autres équipes qui peuvent avoir des saisons compliquées comme le Stade Français il y a 2 ans. Vannes va être un vrai candidat crédible et il y aura plus ces 5 points cadeaux en voyage à Montauban où on peut faire tourner et revenir avec les valises pleines.
Mais Jean-Louis Pizier, il avait déjà connu cette montée, cette redescente. Donc c'est un club et un coach qui sait ce qu'il faut pour se maintenir en top 14. Ils ont dû préparer ça parce que l'année dernière, ils ont tellement marché sur la Pro D2, qui sont déjà projetés, notamment sur le recrutement. Et je pense que Vannes va être compliqué d'aller gagner là-bas
à
la Rabine, maintenant qu'ils sont prêts, que les garçons ont déjà goûté le top 14, ils connaissent l'impact, l'intensité de comment il faut jouer ce championnat-là. Donc t'as raison de dire que c'est pas Montauban, je pense, Vannes, sans faire offense à Montauban, mais qui avait une saison
trop compliquée pour Montauban.
On a parfaitement teasé cette reprise du top 14. On aimerait bien que ce soit dès la semaine prochaine, mais non, faudrait être patient, mais on continuera évidemment d'en parler tout l'été sur RMC. Merci beaucoup, Pierre.
Merci, Pierrot,
d'avoir été avec nous. 18h47 sur RMC, la dernière ligne droite de l'Intégral Sport. C'est dans quelques instants, on va parler foot avec les toutes dernières infos, notamment concernant Zinedine Zidane. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi. 18h49 sur RMC, on est toujours avec Stephen Brun dans l'Intégral Sport. Dans quelques instants, vous allez retrouver toute l'équipe de l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux pour revenir sur la 18e étape du Tour de France, remportée aujourd'hui par Richard Carapaz. Mais avant, on va parler foot et notamment mercato avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Flora, salut Steve.
C'est le bouton. Clément, par contre, ça fait 15 ans que t'es là.
On est mieux. Trop de boutons en fait. C'est la NASA ici.
Tout va bien, on va parler. Et en même temps, il a la tête dans Zinedine Zidane aujourd'hui. aujourd'hui Clément Brossard avec les dernières infos. Ça se précise, on sait quand il sera présenté et ce sera évidemment à suivre sur RMC.
Ça y est, on connaît la date de la présentation de ZZ à la tête des Bleus. Ce sera mardi, c'est ce qu'a annoncé dans un communiqué ce matin Philippe Diallo. 20 ans et 18 jours après son dernier match avec les Bleus, ça ne nous rajeunit pas, évidemment. 2006, la Coupe du Monde, le coup de tête.
20 ans déjà. Je refuse.
Zizou deviendra donc sélectionneur de l'équipe de France. Il devrait s'entourer de 25 personnes, un staff XXL, donc pour permettre à l'équipe de France de viser l'Euro 2028 et puis la Coupe du Monde 2030, troisième étoile, après avoir guidé la France vers la première.
Il est en train de nous vendre un truc parfait en fait.
C'est ce que tout le monde veut.
C'est le storytelling vendu par tout le monde.
Oui, le storytelling.
Ça t'emballe pas.
On va se calmer quand même. On va pas le laisser prendre Zidane ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. On va attendre aussi sa première liste, les choix faits, qui va rester.
Je pense vraiment qu'il va faire des choix vraiment différents de ceux qui avaient fait Didier Deschamps.
Je sais pas, mais peut-être dans sa façon de jouer déjà. Peut-être qu'il va vouloir jouer différemment que ce qu'a fait Didier Deschamps. Maintenant, avec les forces vives qu'il y a en attaque, ce serait compliqué de jouer différemment. Maintenant, on sait que cette génération-là, au lycée, Mbappé, Dembélé, elle est amenée à jouer normalement le carré final de chaque grande compétition. Mais on l'a vu, il y a toujours des surprises, il y a toujours des mecs, t'es pas à l'abri d'une blessure, t'es pas à l'abri d'un mouvement d'humeur,
une contre-performance.
Exactement, et puis t'es pas à l'abri que Zinedine Zidane, ça ne marche pas en fait. On a tous l'impression que parce qu'on va mettre Zinedine Zidane
et parce qu'elle est belle l'histoire,
que ça va fonctionner merveilleusement bien parce que ça a marché au Real Madrid. On n'a pas vraiment de feedback sur Real Madrid, sur Zidane en dehors du Real Madrid. On l'a vu performer que dans un club, Zidane. On l'a pas vu ailleurs. Et là, pour moi, ça va être un test grandeur nature. Et puis, il a tellement de pression parce que Zidane, c'est le dieu du football en France, qu'on l'attend monts et merveilles. Heureusement que la France n'est pas champion du monde parce que tu débarques dans cette équipe-là, ouais, et prends la relève de Deschamps alors que t'es champion du monde, c'est pas cadeau. Tu peux faire que moins bien. Écoute, moi, je suis très curieux. Moi, je suis content. Enfin, on est content. On a eu le temps de digérer, oui, quand même, parce qu'on a compris que c'était lui depuis
un certain moment. Attends, parce qu'officiellement, rien n'a été annoncé par la FFF,
écoute,
on est d'accord.
Écoute, ça sera une curiosité,
les conférences
de presse, Zinedine Zidane qui chante la Marseillaise en tant que sélectionneur, on a tous eu envie, ça va être la réalité. Maintenant, au-delà du conte de fées que c'est,
de cochon, de ce que tu veux,
voyage de noces, lune de miel. Au-delà de lune de miel qui va durer 2 ou 3 mois, après quand les matchs vont arriver, la vraie compétition, Zidane, s'il n'est pas bon, on dirait qu'il n'est pas bon. Hein.
Oui, et ça sera aussi la désillusion pour tout le monde. Est-ce qu'on en sait plus du staff qui va venir avec lui? On parle d'énormément de monde, notamment. Est-ce qu'on sait un petit peu les échéances, les premiers matchs aussi, quand ça va? Parce que ça va arriver très vite, après l'international.
Exactement. Il y aura la Ligue des Nations qui arrivera très vite avec des matchs contre la Turquie, la Belgique, l'Italie. Donc, dans cette compétition, après match officiel à domicile au Stade de France le 2 octobre contre la Nazionale, peut-être de Pep Guardiola, peut-être de Carlo Ancelotti.
J'apprécie que Pep Guardiola, il joue un gros chécos. Ouais.
Un petit peu trop gourmand pour
ça. Ça s'est calmé depuis hier. Là, d'un coup, l'Italie, ils ont dit oh là là.
Les caisses sont vides en plus en Italie.
Ils lui ont dit on a 10, il a dit ah, c'est dommage que je veux 20, moi.
Oui, mais il va falloir aussi sortir le chéquier pour Philippe Diallo parce que 25 personnes dans le staff, c'est immense. Ça s'est jamais vu en équipe de France, notamment. Il y aura des anciens du Real Madrid. On pense à David Bettoni, évidemment, qui est son adjoint fidèle depuis des années. Il y aura aussi des anciens de 1998, certainement Bernard Diomède. On parle aussi de Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens. Ça, c'est loin d'être officiel. Et il y aura aussi un staff qui sera féminisé. Ça aussi, c'est important de le souligner parce que.
Pour la com, surtout, non?
Dans la data. Dans la data, a priori, deux filles viendront alimenter un petit peu ce staff de l'équipe de France qui sera vraiment énorme et immense.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans un staff.
Il y aura Rachida qui sera là. Rachida Data.
Rachida Data, évidemment. Merci, Steve. Un autre sélectionneur qui arrive aussi. Ça, c'était. On en avait déjà entendu parler. Ça semblait évident aussi pour l'Allemagne.
Oui, c'est Jürgen Klopp qui va être le successeur de Julian Nagelsmann. C'est vrai qu'on l'attendait dans une forme de logique, c'est une info de Sky Sports, mais on sait aussi son attachement à Red Bull, son contrat il y a quelques années avec la marque. Il devrait donc mettre fin à ce contrat-là, où il supervisait notamment le Paris FC, pour s'engager avec la Nationalmannschaft. Présentation attendue vendredi à 11h au siège de la Fédération à Francfort. Donc Jürgen Klopp, prochain sélectionneur de l'Allemagne.
Aïe, 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 ça peut faire mal, ça.
Bah, écoute, un sélectionneur allemand, grosse cote sur le marché, s'est reposé un petit peu là avec ses affaires de Red Bull. Je suis pas sûr qu'il soit, ça soit ça l'a fatigué énormément. Jürgen Klopp. Et puis, à un moment donné, quand t'es coach, t'es coaché, que t'as envie de retrouver un banc de touche. Alors c'est un peu plus calme qu'en club, et ce qu'il va connaître à Liverpool, parce qu'il n'y aura pas les séances quotidiennes et la préparation des entraînements. Mais il a envie, tu sens qu'il a envie de revenir, connaître ses émotions, ses pressions, ce stress sur un banc de touche. Ces mecs-là sont faits pour ça. Donc à un moment donné, t'as besoin de te reposer.
Mais
t'as besoin de l'adrénaline. T'es chez toi, t'es une sélection qui est compétitive. Donc voilà.
T'es pas sur Derby, mais c'est un challenge aussi, hein, parce que l'Allemagne.
Ah oui, déception de la Coupe du Monde, il y a aussi à reconstruire. Une info mercato maintenant, signé RMC du côté de Lyon.
L'OL qui continue son recrutement estival et qui s'intéresse à un ex-buteur de Lens, c'est Loïs Openda qui pourrait rejoindre Lyon pour la saison en prêt de la Juventus, prêt sec sans option d'achat, nous informe notre expert mercato Fabrice Hawkins. Openda, c'est 21 buts en 38 matchs avec Lens en Ligue 1, une bonne petite expérience en France, une expérience aussi en Europe, hein, presque 50 matchs de Coupe d'Europe pour 12 buts, c'est un bon renfort offensif pour les Lyonnais.
C'est très bien Loïs Openda qu'on avait découvert à Lens, il avait été très bon, ensuite il est parti en Bundesliga à Leipzig, il avait été très bon, l'année dernière à la Juve, plus compliqué parce que abondance de biens sur ce poste-là, Yves Vlahovic et Jonathan David, il n'a pas su saisir sa chance. Et puis le prêt sans option d'achat, c'est très bien pour Lyon, parce que c'est un garçon qui prend 8 millions bruts la saison, et il faut que la Juve prenne en grande partie le salaire. Donc il voulait un remplaçant à Hendrick. Malik Fofana va revenir à 100%, Ernest Nouama, il y a Corentin Tolisso, il y a Pavel Schultz. Donc s'ils font Loïs Openda, offensivement, c'est très bien pour l'Olympique Lyonnais.
Ça a de la gueule, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Clément.
Merci, messieurs, dames, à bientôt.
Steve, merci beaucoup.
Merci à toi,
on se retrouve demain, évidemment. 18h-19h, le retour de l'Intégral Sport. En attendant, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe de l'After Tour pour revenir sur la 18e étape de ce Tour de France remporté, on vous le rappelle, par Richard Carapaz. Toutes les réactions, notamment celles de Paul Sexas ou encore de Valentin Paré-Peintre, c'est tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.